Bonjour, bonjour, bonsoir, on est sur RDIWA en direct du centre du Martouret où nous sommes réunis pour les quatrièmes rencontres radiophoniques de DI. Autour de la table, plein de personnes pour un retour d'atelier qui s'est déroulé ce matin. Un atelier pour apprendre, expérimenter et se filer des petites billes pour apprendre à faire de l'information. Donc on va vous proposer une demi-heure d'infos avec trois parties. On va commencer par parler et des rencontres et des médias libres en général. Ensuite, on partira à l'international pour une revue de presse avec des infos d'ici et d'ailleurs. Et on finira bien sûr par les bonnes nouvelles. Donc je laisse commencer Anne-Laure et Florian pour nous parler des rencontres.
Merci Claire. On va parler donc, tu l'as dit Claire, de cette quatrième édition des rencontres radiophoniques qui cette année sont organisées par Radio DIWA. On rappelle quand même que Radio DIWA va fêter ses 5 ans. Ça se passera demain soir au Théâtre de Die à partir de 18h. Alors cette quatrième édition se passe au centre de vacances du Martouret à Die. Ça a commencé le 3 novembre, ça va se poursuivre jusqu'à dimanche, jusqu'au 6 novembre. Rencontre radiophonique, mais quelle radio ? Eh bien, ce sont les radios locales associatives qui sont concernées, on va le préciser quand même. Et le principe de ces rencontres, eh bien, ce sont des ateliers d'échange de savoir radio qui sont adressés à tous et à toutes, quelle que soit votre expérience ou votre inexpérience. On insiste quand même sur ce fait que ça ne s'adresse pas que à ceux qui ont déjà mis un pied dans la radio, mais bien à ceux qui auraient simplement envie de s'essayer à la radio, envie de connaître le monde de la radio en général, parce qu'on n'est pas simplement dans ces ateliers que sur le domaine purement radiophonique, mais sur toutes les activités, toutes les facettes de la radio. À savoir, on peut donner peut-être quelques exemples rapidement. Il y a des ateliers qui sont autour de construire un créneau info. Mais il y a aussi des ateliers, par exemple, quel fonctionnement associatif pour les radios, comment parler des luttes rurales et paysannes à la radio, et puis des ateliers purement techniques du son. Ces ateliers sont portés par des professionnels autant que par des bénévoles des radios. Et si on doit donner rapidement quelques chiffres aujourd'hui, ici pour ces quatrièmes rencontres, ce sont 24 radios qui sont présentes, plus deux projets autour du son. Alors au niveau des chiffres des participants, c'est un peu plus difficile, on va dire entre 80 et 100 participants, une fourchette. Voilà.
Entre les chiffres des acteurs et des organisateurs, c'est comme la police et les
voilà.
Manifestants.
C'est un peu ça. Quatrième édition, je l'ai dit, qui dit quatrième édition dit forcément première, deuxième, troisième édition. Moi, je suis participante pour la première fois, mais toi Florian, tu as été aux éditions précédentes.
Oui, là, l'idée c'était de vous faire un peu un historique de ces rencontres radiophoniques. Elles ont commencé en octobre 2013 à Mince, dans l'Isère, dans le Trièves. Et donc on a invité Margot aussi pour nous en parler après. Donc elles ont eu lieu pendant deux années, 2013 et 2014, à Mince donc, et où c'était l'idée d'initier ces rencontres pour la relance d'une radio, Radio Montaiguille, qui avait été arrêtée, et pour relancer la radio de manière collective. Et donc Margot va nous en parler. Et en 2015, elle a commencé à être... À se continuer dans d'autres lieux. Et c'est Radio Bartas qui nous avait accueillis à Florac en Lorraise et cette année a dit donc en 2016 pour ses quatrièmes éditions. Et peut-être que en Lozère, on me souffle dans l'oreillette. Et donc, on voulait échanger avec toi, Margot, pour justement que tu puisses nous expliquer ce projet, pourquoi ces rencontres radiophoniques qui se sont appelées au début, je crois, festival ou rencontres et échanges autour des savoirs radiophoniques.
Ouais, moi, je fais partie du coup d'une radio qui s'appelle Radio Dragon, qui est dans le sud Isère, sur le territoire de Trièves, Mathésine, Beaumont et Valbonnet. Et du coup, c'est un collectif d'habitants qui s'est monté à la suite de la liquidation d'une radio locale qui s'appelait Radio Montaiguille en 2011. Et c'est un collectif du coup qui s'est monté en association. On était des personnes très motivées, mais surtout très incompétentes en termes de radio. Il y en avait vraiment beaucoup d'entre nous qui n'avaient jamais pratiqué ou entré dans un studio, parler dans un micro, tout ça, ça nous était vraiment inconnu. Donc on avait vraiment un gros challenge pour reprendre et reconstruire une nouvelle radio locale. Donc en 2013, on n'avait toujours pas l'obtention de nos fréquences. Donc ça, c'était tout un long processus administratif pour pouvoir reprendre les fréquences de l'ancienne radio. Du coup, on s'est dit, on était très impatients de faire la radio. Alors on s'est décidé à inviter plein de radios amies. En l'occurrence, il y a 6 radios qui sont venues avec une trentaine de personnes à qui on a demandé de venir nous apprendre à faire de la radio. Et c'était dans un objectif de se former à différentes techniques radiophoniques et aussi de mobiliser différentes personnes de nos territoires, à la fois en les faisant participer à la création de ce festival, tant en termes d'hébergement, puisqu'on hébergeait tous les intervenants et intervenantes chez l'habitant, qu'en termes de restauration, où il y a eu tous les producteurs locaux qui ont donné à manger pour nourrir les festivaliers, que sur les lieux d'activité et de formation qui étaient encore une fois chez des locaux, chez des habitants et habitantes du territoire, dans leur salon, dans leur cuisine, dans leur chambre, donc dans plein de places différentes et dans différents lieux en fait de tout notre territoire rural qui est assez large, quoi. Voilà, et c'était vraiment 4 jours qui étaient super intenses et qui nous ont beaucoup enrichis. Et ça a été aussi l'occasion de mobiliser des nouvelles personnes sur le projet radiophonique, puisque c'était aussi ouvert aux habitants et habitantes du territoire, quoi.
Donc vous avez enchaîné sur une deuxième année.
On était tellement contents qu'on a enchaîné sur une deuxième année.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'origine, on voit que c'est une radio qui essaye de se remonter et qui appelle à l'aide d'autres radios expérimentées, entre guillemets, pour justement remonter cette radio. Et que finalement, on va finir là-dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Finalement, ce qui s'est passé, c'est que ces radios qui se sont retrouvées là pour vous aider se sont dit, mais c'est vachement bien, finalement, de se retrouver entre nous. Et c'est ça qui a fait aussi que ces rencontres ont continué et continuent encore.
Ouais, c'est ce qui est ressorti aussi de la première année de rencontres, c'était vraiment les liens inter-radio. En tout cas, il y a les gens sont venus pour donner des formations, mais en fait sont revenus en disant, mais nous, ça nous a hyper, hyper touchés et ça a été hyper important pour nous de se rencontrer entre radios et on a envie que ça continue. Alors si ça peut continuer chez vous la deuxième année, c'est super, mais après on est prêt à ce que ça tourne et que ça soit pris en charge par d'autres radios associatives.
Voilà, donc ça a donné 2015 Radio Bartas à Florac en Lozère. Aujourd'hui, donc cette 4e édition, je vous rappelle qu'on est en direct de ce fameux domaine dont le nom...
Martouret.
Merci Florian. Et que demain, c'est, rappelons-le aussi, hein, c'est l'anniversaire de Radio Diwa qui a tout organisé cette 4e édition. Qui fête ses 5 ans. Ce sera au théâtre de Die à partir de 18h. Et justement, Benji et Seb nous ont préparé quelque chose.
À 5 ans.
Et ça se fête, ça se passe samedi 5 novembre au théâtre de Die de 18h à 2h du matin.
Au programme des concerts et spectacles vivants.
De l'hypnotique Indian Noise Trance de Cantenac Dagar et les camionneurs du suicide, de la chanson de classe artisanale.
On m'appelle monsieur, un one-woman band.
De la cave, du sentimental Cold Wave.
Deus Ex Machina, le groupe du Diwa.
Dégustation du punk pseudo-ibérique.
Jack the Cop, des reprises de Jacques Brel à la sauce Police,
et aussi DJ Whisker et Transbox Experience.
Buvette et restauration sur place.
5€. Les enfants sont tolérés.
Eh bien oui, RDWA fête ses 5 ans et RDWA c'est une radio associative, c'est un média indépendant et malheureusement il y a quand même certains médias indépendants qui sont en danger aujourd'hui avec une liberté d'expression qui est remise en question. Trois affaires sont parvenues à nos oreilles ces dernières semaines, trois affaires qui remettent gravement en cause la liberté d'expression des médias libres et indépendants. Alors les deux premières affaires concernent la presse papier. Deux journaux locaux de critique sociale, le Postillon à Grenoble et La Brique à Lille, ont été poursuivis pour la même raison, une soi-disant interdiction de vente à la criée. Le Postillon a été condamné à une amende de 6 900 € et on attend encore le jugement pour La Brique. Pourtant, la loi de 1947 sur la liberté de la presse stipule dans son article premier, que je cite, « La diffusion de la presse imprimée est libre. Toute entreprise de presse est libre d'assurer elle-même la distribution de ses propres journaux par les moyens qu'elle jugera les plus convenables à cet effet. » Pas un mot sur une quelconque interdiction de vente à la criée. Mais visiblement, ces titres de presse en dérangent certains. La troisième affaire concerne une radio associative comme celle sur laquelle nous nous exprimons aujourd'hui. Cette radio associative, c'est Radio Canu à Lyon, qui a été perquisitionnée à cause d'une blague. Le 25 octobre dernier, dans la matinée, Radio Canu a en effet reçu la visite surprise de 5 flics de la police judiciaire et d'un procureur. Lors de cette perquisition, l'enregistrement d'une émission a été saisi. Pendant cette émission, deux animateurs avaient en effet fait une blague entre deux morceaux de musique punk.
En ce moment, il y a une manif de flics à Bellecour. Donc, avis à tous les suicidés, avis à tous les suicidaires, que votre dernier acte de vie soit utile. Faites-vous sauter dans les manifs de flics. On vous fera un bel enterrement avec une belle boum. Suicidés, suicidaires, organisez-vous. Ah, mais ils sont là pour nous protéger quand même.
Alors, faut-il préciser que ces propos sont du second degré, mais cette subtilité échappe visiblement à certains. Eh bien, figurez-vous que ces deux animateurs seront prochainement jugés pour provocation au terrorisme. Ils risquent jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et une lourde amende. Que ces propos puissent être qualifiés de terrorisme montre le climat de paranoïa actuel et ouvre la voie à une répression accrue et ciblée contre les médias alternatifs, nous dit Radio Canu dans son communiqué. Voilà pour ce que je voulais vous dire, mais décidément, la liberté d'expression, pourtant tant vantée sur tous les tons depuis janvier 2015 et les attentats de Charlie Hebdo, n'est pas si facile à appliquer que cela, et certains seraient bien contents de lui rogner les ailes. Et justement, dans la presse de ce jeudi, une autre info qui remet en question nos libertés. Fanny.
Oui, alors moi je vais revenir sur la une du Monde du jeudi 3 novembre qui titrait « Inquiétude après la création d'un fichier regroupant 60 millions de Français ». On découvre ainsi que durant le pont de la Toussaint, un décret du gouvernement français a été publié au journal officiel, donc le dimanche 30 octobre. Un décret qui a officialisé la création d'une base de données concernant toutes les personnes porteuses d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité. J'ai retrouvé aussi des informations dans le journal Libération qui consacre un article dans son décryptage de jeudi.
Alors de quoi s'agit-il, Fanny ? Pardon, j'ai oublié mon micro. De quoi s'agit-il, Fanny ?
Donc, selon le gouvernement, ce nouveau fichier de titres électroniques sécurisés, TES, vise à prévenir et à détecter la falsification et la contrefaction des données. En fait, dès qu'on fera une demande de carte d'identité ou de passeport, les infos que l'on fournit seront rassemblées dans ce fichier central. Donc, cette base de données rassemblera des informations comme la photo numérisée du visage, les empreintes digitales, la couleur des yeux, les adresses mail et les numéros de téléphone.
Alors concrètement, qu'est-ce que ça va changer ?
Donc aujourd'hui, il y a déjà un fichier qui existe, mais en fait, il rassemble que 15 millions de porteurs de passeport. Bon, on peut dire 15 millions, c'est quand même pas mal. Mais jusqu'à présent, en fait, c'était seulement les détenteurs d'un passeport biométrique qui étaient fichés via en fait la puce électronique qui est sur les passeports. Et donc, ça concerne que les passeports issus après 2008. Donc, dans cette puce électronique sont stockées toute une série de données personnelles qui permettent d'identifier le possesseur avec le nom, l'âge, le sexe, la couleur des yeux, la taille, etc. Des données qui sont relatives au document en lui-même. c'est-à-dire on a la date de délivrance, la date d'expiration, ainsi que des images numérisées de la photo d'identité et des empreintes digitales.
Et quels sont les risques liés à la création de ce fichier central ?
Alors, d'une part, ce qui inquiète la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté, c'est que cet outil puisse être utilisé complètement différemment dans le futur que ce qu'on nous dit aujourd'hui. Il suffit que les conditions d'utilisation changent avec un nouveau gouvernement ou avec un nouveau décret, et on pourra utiliser le fichier à d'autres fins en violant les garanties de protection de la vie privée. Dans le Libé, les journalistes donnent un exemple d'une utilisation assez typique et assez flippante de ce fichier. Par exemple, on prendrait une photo d'un manifestant dans un cortège, et grâce à un programme de reconnaissance faciale, on obtiendra son identité. Selon Le Monde, très nombreux services pourront aussi avoir accès à ce fichier, donc les flics, bien sûr, mais aussi les douanes, les renseignements généraux, et pourquoi pas d'autres services. En tout cas, tout le monde est d'accord pour questionner la pertinence de ce fichier central qui regroupera 60 millions d'individus pour empêcher les quelques 6000 infractions recensées chaque année pour des délits de falsification.
Tu as encore relevé d'autres risques liés à ce fichier ?
Oui, donc j'étais voir sur le site de Mediapart et là, ils soulignent d'autres risques. Ils disent que ce genre de méga fichier, évidemment, n'écarte pas les risques d'usurpation d'identité, mais même facilite le travail des hackers, puisqu'ils citent notamment le cas de hackers qui avaient utilisé un fichier allemand et ils avaient réussi à publier les empreintes digitales de personnalités politiques, comme le ministre de l'Intérieur de l'époque, la Wolfgang Schäuble. Donc, outre les risques soulignés par les défenseurs des droits, comme la Ligue des droits de l'homme et les réserves évoquées par la CNIL, on peut aussi s'étonner de la méthode expéditive du gouvernement. C'est un petit peu stupéfiant, en fait, que la création d'un fichier central, et qui est un peu le seul en Europe, parce qu'il y a juste les Espagnols qui ont fait ça, soit passée par décret et sans débat parlementaire, alors qu'il s'agit de traiter des données particulièrement sensibles relatives à près de 60 millions de Français et Françaises. Voilà, je vous passe les détails concernant la volte-face du ministre de la Justice, qui est
Jean-Jacques Revoas.
Ah, voilà, je l'ai appris moi, en lisant le journal. Jean-Jacques Revoas, qui s'était dressé donc contre un projet similaire proposé par la droite en 2011. Et j'ai trouvé assez piquant en fait que dans l'article du Monde, on trouve cet article concernant ce méga fichier juste à côté d'un article qui montre que les policiers devraient obéir à la loi et porter leur matricule durant l'exercice de leurs fonctions et qu'ils ne le font pas ou pas toujours. Il semblerait notamment que les CRS n'aient pas le temps de mettre leur matricule sur leur tenue de combat. Voilà, donc bon, on voit que les lois ne sont pas toutes les mêmes pour tout le monde. Bon, ça, on le savait. Voilà, alors après toutes ces informations et ces nouveautés relativement liberticides du côté de notre beau pays, on va traverser l'Atlantique pour découvrir des mobilisations de femmes en Amérique latine avec Claire et Laurie.
Du 8 octobre au 10 octobre avaient lieu les 31e rencontres nationales. 31e rencontre nationale des femmes à Rosario. Donc Rosario, c'est la troisième plus grande ville d'Argentine. Plus de 300 ateliers, puis ces rencontres ont débouché sur une manifestation de 70 000 femmes pour la légalisation de l'avortement et contre les violences de genre, sexistes et assassinats, et divers assassinats. Et notamment contre le féminicide. Donc, qu'est-ce que c'est le féminicide ? Alors, le féminicide, c'est un terme qui est légal en Amérique du Sud et dans plusieurs pays. Et ça désigne les meurtres de femmes par des hommes pour la seule et unique raison de leur genre. Donc c'est des femmes tuées par des hommes parce qu'elles sont des femmes. Et du coup, cette manif s'est dirigée vers l'église où les catholiques pro-vie priaient pour les fœtus et leur avorteuse. Donc il y a eu plusieurs heures. Et notamment, il y a eu 20 arrestations. Donc en vrai, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont quand même démonté les barricades qui étaient devant l'église. Et finalement, les pro-vie ont quand même été chassés et sont partis, malgré qu'ils étaient défendus par quelques policiers. Et du coup, pour revenir sur les causes, de, en tout cas de ces manifestations assez importantes, voire grandioses, on va dire.
En fait, en premier lieu, il s'est passé quelque chose d'assez important le même week-end que les rencontres. Donc le 8 octobre, il y a eu une jeune fille de 16 ans qui a été sauvagement tuée, violée, torturée, empalée, la totale. Et enfin voilà, ça a participé de cet élan, entre autres.
Oui, entre autres, donc c'est quand même quelque chose de très courant d'assassiner et que les femmes soient tuées. Du coup, c'était un événement en plus, mais ça reste quand même des choses très courantes. Et du coup, en 2016, en Argentine, il y a eu plus de 300 femmes tuées, donc ce qui veut dire à peu près 3 tous les 4 jours. Et donc là, on parle juste des personnes tuées. Parce qu'après, il y a tout aussi les séquelles des autres violences, qui peut être le viol, les violences conjugales, mais où forcément, il n'y a pas d'essai. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est juste un chiffre comme ça. Et donc, la semaine suivante, en réponse et en tout cas en commémoration de cette personne, de cette fille qui s'est fait assassiner, il y a eu une heure de grève dans différents lieux et différentes villes d'Amérique du Sud. Et du coup...
Oui, donc dans vraiment plein de pays, puisqu'il y a eu des mouvements à Mexico, à La Paz, au Pérou, surtout à Buenos Aires, bien sûr, et enfin dans vraiment plein de pays, Guatemala, Uruguay, enfin c'est un mouvement qui s'internationalise en une semaine, quoi.
Et du coup, pour demander et stopper les meurtres et les violences sexistes. Et du coup, pour revenir sur quelques chiffres, en France, par exemple, l'année dernière, du 25 novembre, qui est la journée de commémoration des... qui est la, genre le 8 mai, mais pour les violences faites aux femmes. Et du coup, c'est un chiffre qui est sorti de la Banque mondiale et de la Santé. Et du coup, il disait qu'en France, une femme entre 15 ans et 44 ans... Enfin, les risques de viol et de violences conjugales pour une femme entre 15 ans et 44 ans sont plus élevés que les risques de décès par cancer, l'accident de la route, le paludisme et les guerres, et tout ça réunis. Et ça, c'était en 2015, donc c'est-à-dire l'année dernière. Je pense pas que les chiffres ont beaucoup changé, vu que rien n'a vraiment beaucoup changé. Et en 2015, aussi, en termes de chiffres encore, c'était 130 femmes assassinées par violence conjugale. Et donc là, on
recense... En France aussi.
En France aussi, oui. Et on recense juste les violences conjugales parce que le terme féminicide n'existe pas en France et n'est pas légal. Mais après, est-ce que il y a des débats là-dessus sur est-ce qu'il faut ou pas le mettre dans le code pénal ? Ça, c'est encore en discussion. Il y a pas mal de débats là-dessus. Donc, ce qui veut dire que l'année dernière, en 2015, 130 femmes tuées, ce qui veut dire que ce chiffre est presque égal au chiffre des personnes tuées par le terrorisme.
Voilà, donc on peut conclure en disant que contre le terrorisme, on met en place une pléiade de lois, d'arrêtés, de campagnes de lutte contre la radicalisation, des états d'urgence et autres vigipirates, et contre le sexisme, point d'interrogation.
Une autre chronique. Alors effectivement, la libération des villes de Mossoul en Irak et d'Alep en Syrie, la Russie, les États-Unis et la France y mènent des guerres impériales.
Et oui, parce que pour revenir au fait de ces derniers jours, c'est qu'il y a une nouvelle trêve humanitaire de 10 heures seulement qui est entrée en vigueur ce matin à Alep en Syrie. Accordé gracieusement par le gouvernement russe alors que les forces rebelles ont hier attaqué les quartiers gouvernementaux. Obama, lui, sermonne Poutine en raison de bombardements de civils. À Mossoul, en Irak, l'offensive commencée depuis le 17 octobre par les forces d'élite irakiennes et soutenues par l'armée américaine et française leur ont permis d'entrer dans les rues de Mossoul, mais ils se heurtent à une forte résistance des djihadistes qui contrôlent la ville depuis juin 2014, pour rappel. Et la libération de la ville va sûrement s'enliser et des exécutions sommaires sur fond de rivalité religieuse vont sûrement s'ajouter à tout ça. Et donc, dans cette guerre contre l'organisation État islamique, ce sont les Russes et les Nord-Américains qui dirigent ce jeu d'échecs devenu international, alors que cette guerre se déroule sur le terrain en Irak, en Syrie et au Kurdistan. Donc chaque jour, depuis quelques mois, les médias commentent. Alors je cite, reprise de la ville, viol de cessez-le-feu, front, état de siège, pilonnement, bombardement, opération militaire conjointe. Mais ce langage de la guerre contre les méchants barbus ne s'arrête pas là. Couloir humanitaire pour les civils, camp. Les médias en oublient de comprendre la volonté de la population, des habitantes de ces villes, leur désir de gouvernance. Les gens veulent que l'État islamique s'en aille, oui, mais après leur exode. Veulent-ils vraiment des soldats français ou américains en armes pour protéger leur ville ? Veulent-ils travailler pour des multinationales occidentales ? Veulent-ils d'un président fantoche mis en place par la Russie ou les États-Unis ? Et voilà des questions. Et c'était donc l'illusion médiatique est grande. Et ça parle beaucoup de partage d'informations entre dirigeants aussi, ça c'est des citations, de recherche d'un accord entre Obama et Poutine, de l'ONU qui s'alarme, d'Alep, un problème de plus à gérer pour Washington. Ces mots qui révèlent plus, ces mots qui relèvent plus du jeu d'échecs entre puissances nous ont fait presque oublier que ces pays ont leurs propres enjeux géopolitiques, leur passé, leurs aspirations et que les citoyens veulent y vivre tranquillement. Obama, le président des États-Unis, a déclaré en parlant de la ville de Mossoul un pas décisif vers la destruction totale des forces djihadistes. De quel droit un président peut demander la mort de milliers de personnes, quand bien même ceux-ci imposent violemment leur idéal ? Et donc, pour en revenir aux enjeux propres au Proche-Orient, c'est la Turquie qui essaye de s'imposer là à Mossoul entre la France et les États-Unis qui y sont arrivés. Sauf que là à Mossoul, ce sont les rebelles kurdes qui sont aux côtés de l'armée irakienne. Et sauf que Erdogan, le président turc, ne veut pas d'un Kurdistan libre puisqu'il ne reconnaît même pas l'existence des Kurdes, ce qui complique vraiment la donne. Et donc les Irakiens, eux, craignent une annexion de cette partie d'Irak du Nord par Erdogan. Bref. C'est la merde, et qui dit guerre dit reconstruction, dit économie capitaliste.
Ok, on le dira.
Ça nous tenait à cœur quand même de parler de Calais, parce que dans l'actualité, ça en parle encore. Et on avait envie de rappeler, du coup, cette semaine, c'est la fin de l'opération des expulsions qui a commencé la semaine dernière. Je rappelle un peu cette vaste opération très médiatisée qui a commencé lundi de la semaine dernière et qui, selon l'État, a vu 7000 migrants partir dans des bus vers des centres d'accueil et d'orientation partout en France. Il y en a plus de 60 en France. Cette semaine, l'opération se continuait avec mercredi plus de 1600 mineurs qui ont été déportés aussi dans des cars dans les mêmes centres. Et jeudi, 300 femmes et enfants qui ont quitté le centre Jules Ferry de Calais pour aller dans le même centre. Et ce qui a posé quand même pas mal de problèmes parce qu'il y a des associations de défense des droits des étrangers et les syndicats des avocats de France qui ont déposé un référé contre la préfète du Pas-de-Calais parce qu'en France, tout ce qui concerne les mineurs, il est censé passer par le parquet et les juges des enfants. Et ce n'est pas ça qui s'est passé. En fait, les mineurs ils se sont trouvés dans des bus sans savoir où ils allaient et sans assistants sociaux comme c'est prévu par la loi. Du coup, ce qui se passe, c'est la jungle était rasée et les mineurs et les femmes ont été éloignés de Calais. Mais ce n'est pas qu'à Calais qu'il se passe des choses, mais partout en France.
Oui, parce que comme vous le savez, il y a des grosses polémiques sur l'accueil des migrants suite au démantèlement de la jungle de Calais. Du coup, des polémiques qui ont cours notamment dans les municipalités un peu partout en France. Et ici, en Rhône-Alpes, on tenait à signaler que le rassemblement contre l'accueil des migrants qui devait avoir lieu ce soir à Saint-Martin-d'Air a été annulé au dernier moment. Donc pour rappel, depuis hier, il y a 52 personnes qui sont arrivées de Calais et qui sont hébergées temporairement sur le campus universitaire de Saint-Martin-d'Air, donc qui est situé sur cette petite commune limitrophe de Grenoble. Donc contre cet accueil, le Front National Isère appelait à un rassemblement aujourd'hui à 18h devant la mairie communiste. Mais face à la mobilisation de diverses organisations qui prévoyaient plusieurs contre-rassemblements, en fin d'après-midi, le FN a finalement fait machine arrière et a déclaré à la presse qu'ils annulaient leur rassemblement puisque ces contre-rassemblements constituaient un danger pour leurs militants. Alors ce qui est assez drôle quand même, c'est que donc on explique que ces rassemblements sont organisés par l'ultra-gauche, des racailles et des fumeurs de chichons. En l'occurrence, les organisateurs, ce sont le Parti communiste français, Europe Écologie Les Verts, les syndicats étudiants UNEF et Solidaire, le réseau Ralfon, etc., etc. Donc ici en studio, on se permet de sourire. Et puis à ce sujet aussi, on voulait en profiter pour rappeler qu'un peu partout en France, il y a tout un tas de manifestations qui sont organisées pour soutenir l'accueil des migrants dans les communes et pour protester contre les prises de position de certains élus locaux qui soit refusent d'organiser cet accueil, soit appellent carrément à s'organiser contre cet accueil. Et pour exemple, pour rester en Rhône-Alpes, le 23 octobre dernier, il y a 2000 personnes qui ont grimpé les 1143 mètres du mont Mézin en signe de protestation contre la pétition anti-accueil qui a été lancée le 16 septembre 2016 par Laurent Wauquiez, le président de région affilié au Parti des Républicains. Voilà.
On avait envie de rajouter quand même que à 10 au cinéma Le Pestel, il y a un film qui passe sur ce sujet qui s'appelle Fuoco a Mare. C'est un film de Gianfranco Rosi qui est sorti cette année et qui a gagné l'Ours d'Or à Berlin. Et c'est l'histoire d'un garçon de 12 ans qui vit à Lampedusa, vous voyez cette île au sud de la Sicile, qui dans les dernières 20 ans est devenue une frontière où passent des milliers et des milliers d'immigrants. Et c'est un documentaire qui met la famille de Samuel, et du coup cette famille de pêcheurs, face à la réalité dramatique de tous ces migrants qui arrivent sur l'île et face aussi à le boulot quotidien des équipes de sauveteurs qui essayent de sauver ces personnes tous les jours. Alors, le film, il passe dimanche à 20h et lundi à 16h au cinéma Le Pestel à 10h.
Voilà, donc, chers auditeurs, auditrices de RDIWA, on vous invite à vous rendre au cinéma dès ce soir ou dimanche. Et on va finir ce créneau info par 4 bonnes nouvelles suite à toutes ces... C'était pas des mauvaises nouvelles, en fait, c'était juste la réalité du monde.
Oui, mais la réalité, c'est aussi quelquefois des bonnes nouvelles. Et donc, je voulais vous parler d'une belle victoire à Saint-Hilaire-du-Brenmaz. En fait, il y a un collectif qui lutte depuis plusieurs années contre un projet de golf et de complexe immobilier à Saint-Hilaire-du-Brenmaz, c'est près d'Alès, dans le Gard. Eh bien, figurez-vous qu'il vient de remporter une belle victoire. En effet, la mairie a organisé une consultation locale à laquelle ont participé plus de 50% de la population et où le non au golf a remporté plus de 60% des voix. Or, Max Roustan, le président de l'Aglo d'Alès, porteuse du projet, s'était engagé publiquement à retirer le projet en cas de non à cette consultation. Alors, pour ne pas lui laisser le temps de changer d'avis, le collectif va fêter cette belle victoire le vendredi 25 novembre en soirée. Alors, on les encourage sur cette dernière ligne droite et puis on leur dit un très très grand bravo pour cette belle victoire.
Et ça nous fait penser donc plus près d'ici à Roibon, il y a eu aussi des nouvelles récemment, c'est-à-dire qu'il y a la cour administrative d'appel de Lyon qui va rendre son jugement. Alors normalement ça devait être aujourd'hui, mais enfin l'audience aujourd'hui et le jugement va être rendu le 22 novembre, mais il semble qu'en fait par rapport, donc vous rappelez au Center Park de Roibon, qu'en fait le rapporteur public a estimé qu'il fallait annuler les arrêtés préfectoraux de 2014 qui permettaient en fait de passer outre les lois sur l'eau et les lois sur la protection de la faune. Et donc il y a bien des chances en fait, donc généralement la Cour suit les recommandations du rapporteur et il y a bien des chances que ces arrêtés préfectoraux soient annulés et que voilà, de toute façon les travaux sont arrêtés en ce moment. les poissons pourront passer l'hiver tranquille. Les grenouilles plutôt.
Et sinon, la trêve hivernale a débuté cette semaine. C'était le mardi 1er novembre et ce jusqu'au 31 mars. Ouais. Tant mieux, cela veut dire, cela complique les expulsions locatives pour les propriétaires.
Et à propos de trêve hivernale, on vous rappelle aussi, sous la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a 14 lieux qui sont concernés par cette trêve hivernale, pas que des lieux en dur, des cabanes aussi. Et du coup, les menaces de cet automne d'intervention policière deviennent de moins en moins probables.
Yeah. Alors c'est la fin, au revoir.
On vous rend l'antenne, à bientôt.
Au revoir.
Et on ne sait pas la prochaine émission, on ne peut pas l'annoncer, mais vous êtes bien sur RDWA.
Cruel.